Bonjour, ici Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au sommaire de l'émission du jour, l'info du jour, une interview avec l'association Alter Ego Rennes pour rencontrer le sexisme en archéologie. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage sur le projet 102 exposé à la clinique Beaulieu à Rennes et puis une recommandation, c'est le traditionnel forum du bénévolat, bienvenue dans l'arène.
Et maintenant on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera. Et vive la reine !
Vive la reine !
L'info du jour, c'est un chiffre, 28 000 pour le nombre de passoires énergétiques à rénover dans Rennes Métropole. Conclusion du dernier rapport de l'ODIAR, l'agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise. Ça représente en fait 12% du parc total de logements de Rennes Métropole. On trouve des appartements autant que des maisons à Rennes, mais aussi à Bruges, Cesson, et qu'on retrouve donc classés F ou G dans les diagnostics et responsables à eux seuls de 19% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur résidentiel. Plus de la moitié de ces logements ont été construits entre 1946 et 1970. En effet, plus le bâtiment est ancien et plus il a de chances d'être énergivore, lit-on dans le télégramme. Beaucoup de petits appartements occupés par des ménages précaires, aussi par des étudiants, et pour lesquels les dépenses en énergie explosent. Dans Rennes Métropole, ce sont 11,3% des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Ça veut dire que leurs dépenses dans ce domaine sont supérieures à 8% de leurs revenus. Dans le contexte avéré de changement climatique, il va donc falloir accélérer sur la rénovation de ces logements, car la loi Climat et Résilience en interdira de toute façon la location à partir de 2025, en tout cas pour ceux qui sont classés G. Pour les logements classés F au diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, l'interdiction de location, elle est attendue pour 2028. Allez, on passe à l'interview du jour. Lisa Marchand et Chloé Damet, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes membre de l'association Alter Ego Rennes qui organise un cycle d'événements Rencontrer le sexisme en archéologie. Ça a commencé lundi 26 septembre et ça se poursuit jusqu'au 28 octobre à l'Université Rennes 2. C'est quoi l'histoire de cette association Alter Ego, son histoire et puis les actions qu'elle met en place ?
Alors du coup, l'association Alter Ego Rennes, c'est une association qui existe depuis 20 ans maintenant, qui a été créée à l'origine pour porter support à des étudiants qui voulaient trouver des financements pour pouvoir se rendre sur des chantiers de fouilles archéologiques. Et au fur et à mesure, donc, l'association a grossi, on a aussi diversifié les champs d'action. C'est une association avec des étudiants, avec des professionnels et avec des passionnés d'archéologie. Qui vise à faire de la médiation, de la vulgarisation et de la sensibilisation au métier de l'archéologue et à tout ce qui a trait à ce champ disciplinaire. On a différents domaines d'action, on va faire des interventions dans des établissements scolaires, donc que ce soit école ou collège, pour parler du métier de l'archéologue. On fait aussi des cycles de conférences, du coup, des présentations quand on nous appelle, par exemple, on a des partenariats avec des institutions comme l'INRAP qui fait appel à nous pour des ateliers, des animations auprès d'un public jeune, mais pas que, à vrai dire. Et on vient aussi en aide aux étudiants sur demande, en fonction de leurs besoins, d'avoir une espèce de structure un petit peu médiatrice qui va leur permettre d'avoir des financements ou une aide administrative pour monter des dossiers relatifs à l'archéologie.
L'INRAP, je précise, qui est l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, qui travaille notamment dans le Grand Ouest, qui sont les membres de cette association. Il y a des étudiants diplômés pour certains en archéologie, mais pas que.
C'est ça. Donc il y a vraiment des étudiants et des professionnels, et c'est un peu ce qui est aussi au cœur de la démarche de l'association, c'est-à-dire la possibilité de créer un réseau, de pouvoir poser les questions quand on débarque dans ce domaine-là, en fait, qu'on n'ose pas forcément se poser à son humble position d'étudiant. Donc on fait vraiment quelque chose qui est intergénérationnel, interprofessionnel aussi, et c'est vraiment au cœur de ce que veut faire l'association.
Et toutes les deux, vous en êtes rendues où dans votre chemin d'études ou professionnel ?
Alors moi, j'amorce ma troisième année de thèse en archéologie, donc je suis doctorante contractuelle. Et Chloé ?
Et moi, j'amorce ma quatrième année en contrat de thèse. Je suis entre Rennes 2 et Sorbonne Université. Et donc voilà, on est tous les deux issus d'un long parcours en archéologie, histoire et histoire de l'art.
On arrive à ce cycle d'événements, rencontrer le sexisme en archéologie, à vivre jusqu'au 28 octobre à l'université Rennes 2. Le point de départ, c'était l'accueil d'une exposition qui s'appelle Archéo-Sexisme, créée par une autre association et collectif qui est peut-être nationale d'ailleurs, cette association et ce collectif.
Oui.
Ouais, et on les présente.
Oui, alors c'est l'association Archéoéthique et le collectif Païta Truel qui sont à l'origine de cette exposition. Donc l'exposition, elle a été créée par trois jeunes chercheuses, Laura Marie, Ségolène Van de Velde et Béline Pasquini, qui ont récolté des témoignages. Donc c'est Laura Marie qui a créé donc, dans la vague de dénonciation des violences sexistes et sexuelles MeToo que l'on connaît tous, hein, qui a été très, très florissante. Le domaine de l'archéologie a eu son propre Tumblr, le hashtag Païta Truel, créé par Laura Marie. Ont découlé une multitude en fait de dénonciations et les trois commissaires d'exposition ont sélectionné toute une série de ces témoignages, les ont illustrés, ce qui a abouti à la création de l'expo Archéosexisme, qui est une expo itinérante hein, qui voyage à travers le monde et qui est exposée dans beaucoup d'universités et d'organismes d'archéologie à travers le monde. Donc là, elle nous vient directement d'Athènes et nous l'accueillons pour la première fois en Bretagne. Et on est très fiers de l'exposer au Hall B de l'Université Rennes 2 qui a lui-même qui a un lieu assez symbolique, politique, fort universitaire.
Donc exposition à voir dans le Hall B du campus jusqu'au 21 octobre. On le dit tout de suite, le collectif sera présent et l'association, le collectif Païta Truel sera présent pour une conférence à distance, c'est ça ?
Tout à fait.
Au courant du mois d'octobre.
Oui, les trois commissaires d'exposition parleront le 5 octobre à 18h. Vous pourrez également suivre la conférence en visio si ça vous intéresse et si vous ne pouvez pas vous déplacer dans l'amphi B1 où nous projetterons en direct, nous diffuserons donc cette rencontre avec les trois commissaires d'exposition qui nous présenteront en gros les enjeux, les méthodes la nécessité d'avoir créé cette exposition.
La première expo, elle aborde plutôt ce sujet des violences sexuelles. Et deuxième exposition, là c'est la vôtre, pour parler plutôt de l'invisibilisation des femmes, avec des portraits de femmes archéologues et militantes, des portraits qui sont illustrés, accompagnés d'une biographie. L'idée c'est quoi ? C'est de changer peut-être l'image qu'on se fait de l'archéologue. L'archétype c'est Indiana Jones, l'homme blanc qui a une quarantaine d'années.
C'est ça l'idée, c'était un petit peu de déconstruire ce mythe de l'archéologue et de permettre de mettre en lumière de nombreuses femmes qui ont fait évoluer la discipline, qui n'ont pas eu toujours une parole qui a pu être entendue, parce que en fonction réellement des générations, c'est une place qu'il a été difficile pour elles de prendre. Et, nous, on s'est dit, on a eu la possibilité, grâce à l'université, de créer cette exposition donc au Tambour. Et on a choisi, du coup, on a sélectionné avec les bénévoles de l'association 15 femmes archéologues, ce qui n'est pas du tout représentatif de la diversité des femmes qui ont œuvré dans ce domaine, mais 15 portraits de femmes archéologues qu'on a décidé d'illustrer, qui sont accompagnés de leurs biographies, qui ont été rédigées par des membres de l'association. Et l'idée, c'est vraiment de déconstruire cette image d'épinal un petit peu de l'archéologue exclusivement masculin et de rendre un petit peu leur dû à ces femmes qui ont œuvré pour la discipline.
Et dans l'enseignement, quand on étudie l'archéologie, il y a une surreprésentation des figures justement masculines, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a un effort de fait pour montrer un peu côté matrimoine ce que les femmes ont apporté à l'archéologie ?
De ce qu'on a vu nous en cours, c'est même pas une suprématie des ouvrages masculins, c'est une omniprésence en fait. On évoque très très peu les femmes, surtout nous qui avons surtout une éducation de l'archéologie classique, c'est-à-dire l'archéologie de l'Antiquité grecque et romaine, où là en fait les ouvrages des femmes sont quasiment absents.
Après c'est vrai que je pense que ça dépend aussi peut-être des institutions, il y a des universités qui développent plus ce genre de problématiques, mais encore une fois, ça va être vraiment à l'initiative des professeurs qui vont avoir une spécialité sur ces problématiques-là. Et en fait, les postes d'archéologie à niveau universitaire sont principalement aussi octroyés à des hommes. Et du coup, ça crée ce décalage qui fait qu'on étudie l'archéologie, on a des professeurs qui nous la montrent, qui sont principalement des hommes et qui nous font étudier des ouvrages exclusivement écrits par des hommes aussi.
Et même dans les travaux de recherche, revanche, j'ai lu une étude très récemment qui montrait que les hommes ne citaient que très peu les ouvrages de leurs collègues féminines. Et à l'inverse, les travaux des femmes allaient beaucoup plus citer les travaux de leurs collègues féminines.
Et depuis quand est-ce qu'on trouve des femmes archéologues ? Elles ont toujours existé, ont été invisibilisées ? Ou est-ce qu'il faut attendre une certaine période, peut-être très contemporaine, pour avoir des archéologues femmes ?
Alors je pense qu'elles ont toujours existé. Il y a eu un effet comme dans beaucoup de sciences où finalement les femmes effectuaient le travail mais ne pouvaient pas publiquement le revendiquer. Donc les ouvrages étaient parfois signés par la main des maris ou alors c'était des collaborations mais dont on ne citait que le nom de l'homme. Il y a eu un réel tournant dans la recherche, je pense à partir des années 70, comme en général dans les sciences sociales, où on va faire de ce qu'on appelle les gender studies. Il y a eu ce mouvement-là pour l'archéologie aussi, donc de l'archéologie du genre, où on va avoir des femmes qui, vraiment de façon entrelacée avec le mouvement féministe, dans tous les cas, vont pointer du doigt le fait qu'il y ait une sous-représentation des femmes dans les corps enseignants, dans les champs érudits en général, et aussi le fait que, comme l'histoire est écrite par des hommes, la question de la femme dans les sociétés passées, elle a été totalement passée sous silence.
Ça, on va y revenir. Je vous laisse peut-être choisir un ou deux de ces portraits qu'on peut découvrir donc à la mezzanine du Tambour jusqu'au 28 octobre.
Alors du coup, je pourrais mentionner rapidement Margaret Conkey, qui est généralement une des figures de proue de ce développement de l'archéologie du genre, qui a publié des articles, notamment dans les années 80, avec Janet Spector, où relativement à leurs champs disciplinaires qui peuvent être divers et variés, elles ont commencé vraiment à pointer du doigt le problème, notamment dans le cadre de Margaret Conkey qui travaille sur les sociétés préhistoriques. On a vraiment ces images très ancrées dans l'imaginaire commun de la femme autour du feu qui reste dans la grotte et de l'homme chasseur, etc. Elle va réellement commencer à déconstruire tout ça à partir des années 80. Et c'est une figure qui est très importante parce qu'elle représente aussi le développement de ces problématiques-là dans les écoles anglo-saxonnes, ce qui n'est pas forcément le cas en France, par exemple. Et elle a vraiment développé toute sa carrière, pas uniquement sur ça, mais elle a monté aussi des collectifs et des associations pour valoriser le rôle des femmes dans les sciences sociales et dans l'archéologie. Et elle a gravi les échelons comme ça jusqu'à avoir une reconnaissance qui permettait enfin à ce type de discours d'être entendu.
Je peux évoquer très rapidement le tout premier portrait, Jeanne Dieulafoy, donc c'est l'archéologue la plus ancienne que l'on présente dans l'exposition. Elle est française et elle a surtout travaillé à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle. En fait, elle était archéologue et son mari également. Et pour le suivre, elle a bravé certains interdits, donc elle a dû se travestir pour avoir le droit d'aller sur certains chantiers, donc se s'habiller en garçon, ce qui était formellement interdit à l'époque, de porter le pantalon. Elle a été à l'origine de grands dégagements de palais assyriens sont extrêmement connus en France en archéologie classique et elle s'est enrôlée dans l'armée pour pouvoir le rejoindre, donc c'est vraiment une figure courageuse qu'on pourrait assimiler à ce qu'on se fait dans notre tête d'Indiana Jones, mais cette fois avec beaucoup plus de courage car c'était une femme et elle a bravé plein d'interdits pour poursuivre son rêve et travailler avec son mari sur ces sujets archéologiques.
Alors, au-delà de ces deux expositions, Rencontrer le sexisme en archéologie, c'est tout un cycle d'événements durant une bonne partie du mois d'octobre, des tables rondes, visites, conférences, projections pour explorer le sujet et même l'élargir au champ des sciences sociales. On commence avec le moment d'inauguration, ce mercredi 28 septembre à partir de 18h. On court donc à l'université Rennes 2, ce sera l'occasion d'une rencontre avec Nathalie Richard. Qui est-elle ?
Nathalie Richard est professeure à l'Université du Mans et elle travaille plus spécifiquement sur l'histoire de l'archéologie. Donc elle va plus étudier les acteurs et actrices de cette science. Elle vient nous parler des amatrices et des professionnelles, en général des préhistoriennes en France au XXe siècle. Donc elle va nous présenter toute une catégorie de femmes chercheuses dont on entend extrêmement peu parler. Elle est l'autrice de quelques ouvrages qui participent à mettre sur le devant de la scène en fait le travail des femmes. Et ça nous a paru assez intéressant de l'inviter pour nous parler d'une catégorie de chercheuses peu connues.
Et ce sera l'occasion aussi de découvrir toute la programmation de ce festival et de lancer les festivités. On annonce ensuite une autre conférence, on a déjà parlé de celle du mercredi 5 octobre à distance avec le collectif Paye ta truelle. Lundi 3 octobre, là, une invitée qui vient de loin pour parler justement de gender archéologie.
C'est ça. Donc là, on a une collègue qui va intervenir, donc Julia Saltini-Semerari, qui est professeure à l'Université du Michigan et qui va nous parler de sa façon d'enseigner la gender archéologie et aussi de la façon dont elle, personnellement, elle a évolué dans ce milieu-là extrêmement masculin. Donc ça va être vraiment quelque chose d'un petit peu plus personnel, je pense, l'intervention de Julia, mais dont on a besoin d'entendre aussi parler quand on est des femmes archéologues et qu'on se projette dans ce corps de métier.
Samedi 8 octobre, on prend là la direction du musée de Bretagne au Champ Libre pour une visite un petit peu en lien avec ce sujet sur l'exposition celtique qui a créé quelques polémiques. Mais là, il sera question du genre. De quelle façon ?
Alors là, c'est une visite thématique. En effet, le musée de Bretagne propose des visites point de vue. Et là, c'est une bénévole de l'association qui questionnera le genre en archéologie par le biais de la culture celte. Donc la bénévole s'appuiera sur les illustrations, les objets qu'on a pu retrouver en contexte archéologique et qui permettra au grand public d'avoir une première approche de cette gender archéologie, donc cette archéologie du genre, via différents artefacts. Donc ce sera l'occasion de montrer les contextes d'études et d'interprétation de ces objets-là, en revenant peut-être sur ces interprétations pour montrer que si on trouve un squelette avec une robe, ce n'est pas forcément une femme. Et voilà, de cesser cette application, ce calque qu'on a presque automatiquement de notre condition sociétale que l'on calque directement sur les objets d'études.
Je le disais, ce cycle d'événements rencontrer le sexisme en archéologie cherche aussi à élargir la réflexion que ce soit de l'invisibilisation mais aussi des violences sexuelles au champ des sciences sociales, de la recherche. Ce sera le cas avec cette projection au Tambour lundi 10 octobre pour la diffusion d'un film tourné entre Lille et Paris si je ne me trompe pas.
Oui. C'est un film d'à peu près 50 minutes, un peu moins d'une heure, donc qui recueille des témoignages d'étudiants, étudiantes, chercheuses, et qui vient témoigner de toutes les violences psychologiques, sexuelles, du harcèlement et des agressions dans le contexte universitaire et académique. On a aussi des violences intermembres des laboratoires. C'est un documentaire extrêmement poignant qui vaut vraiment le coup d'être vu, ne serait-ce que pour se rendre compte de ces harcèlements vraiment insidieux, de ces harcèlements vraiment tués, qui sont très très peu qui éclatent très peu au grand public en fait. Et tout l'intérêt de cette projection, nous on s'est dit qu'on ne pouvait pas projeter ce film et laisser les étudiants, étudiantes, professionnels qui viennent le voir comme ça, donc on a organisé une discussion débat à la suite, qui seront animés par Jérôme Hénaud, qui est vice-président égalité, chargé de la mission égalité à Rennes 2, et de Tiffaine Grinière, vice-présidente étudiante. Donc ces deux personnes s'attacheront à présenter une nouvelle plateforme de signalement à Rennes 2 qui se veut la plus anonyme et la plus rapide possible pour combattre au maximum ces agressions, ce harcèlement, ces violences. Et nous aurons l'honneur aussi d'accueillir la réalisatrice du film, Lisa Heurtier, et Camille Zimmermann, une ancienne doctorante qui a arrêté sa thèse suite à ce genre de harcèlement et qui viendra nous parler de son expérience et nous l'espérons, en fait, de toutes les choses qu'il reste à faire. En effet, Rennes 2 fait bien sûr son maximum dans ce genre de cas, mais comme dans toutes les facs, comme dans encore aujourd'hui vis-à-vis du sexisme et du harcèlement et des discriminations sexistes, il reste beaucoup de choses à faire.
Briser le silence des amphis, c'est le nom du film qui sera projeté donc lundi 10 octobre à 18h et ça se passe donc au Tambour hein, et ce sera suivi d'un débat. Dernière proposition, c'est mardi 18 octobre en soirée, là sous forme de table ronde ouverte à tout public, une façon de clore cet événement avec une réflexion assez globale.
Oui, finalement, ça nous a semblé assez pertinent de faire intervenir donc Clotilde Chamusy, qui est vulgarisatrice et créatrice de contenu sur YouTube, sous le nom de Passé Sauvage, pour cette dernière intervention. On renoue un petit peu avec une des ambitions premières de l'association, qui est aussi de parler de la médiation, de la sensibilisation en archéologie. Et du coup, Clotilde va venir nous parler justement des enjeux de cette vulgarisation en archéologie et en histoire, dans une société patriarcale, et elle va vraiment nous apporter ce point de vue de comment faire avec les médias qui sont ceux à notre disposition aujourd'hui pour faire comprendre ce message à toute génération et au plus grand nombre.
J'en profite pour préciser qu'il y aura aussi deux salariés d'une grande association de médiation en archéologie qui s'appelle Archéomédia. Et nous avons deux salariés qui viennent aussi nous parler de leur expérience. Elles sont responsables du pôle citoyenneté de leur institution. Et elles ont l'habitude de créer des ateliers et des animations pour les enfants en essayant de faire passer tous ces messages autour du racisme et du sexisme via des exemples de l'Antiquité et des sociétés anciennes. Donc on espère que ce cocktail autour de la médiation et de la vulgarisation permettra aussi là de belles réflexions. On espère surtout viser tous les étudiants et étudiantes autour du patrimoine et de l'archéologie en général, qui ont un grand rôle en fait dans cette diffusion du savoir et de la science au grand public.
Je vous représente toutes les deux, Lisa Marchand et Chloé Damet, membres de l'association Alter Ego Rennes, qui organise ce cycle d'événements Rencontrer le sexisme en archéologie. Ça se passe jusqu'au 28 octobre à l'université Rennes 2. Tout le programme est à retrouver en ligne sur le site alterego-rennes.jimdofree.com. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Once upon a time when I was still in middle school, I was trying to be invisible more than I was trying to be cool. And everyone in my class was happy all of the time. And everyone in my class was happy all of the time. And then once upon another time, wasn't even all that long ago, every single one of my songs was playing on the radio. And all the boys in the street would compliment my style, saying, won't you come sit for a while? But if you're stuck in first place, you cannot be in another. And though I did try my best, I made a pretty bad lover. Said Romeo, he's the dealio. And don't you make me say it again. Oh, I am nobody's baby and everyone's best friend. Oh, I am nobody's baby and everyone's best friend. Friend. Oh, my good looks will start to fade, but my wit and my charisma surely here to remain. Always kept true to myself. Oh no, I've never had to pretend, for I am nobody's baby and everyone's best friend. Oh, I am nobody's baby and everyone's best friend. Everyone's best friend. Oh, I am nobody's baby and everyone's best friend.
Meskerem Mise avec le titre Best Friend. Cette chanteuse flamande d'origine éthiopienne n'a que 23 ans, ça fait envie. Et son premier album Julius, il est attendu pour le mois de novembre. On continue cette émission avec un reportage sur le projet 102 exposé à la clinique Rennes-Beaulieu jusqu'au 5 octobre. Ce projet, ce sont en tout 102 œuvres d'art couplées à autant de témoignages, témoignages de victimes d'accidents de la route, mais aussi de leurs familles, de soignants, d'associations ou encore d'élus. L'objectif, rendre la route plus sûre. La marraine du projet, c'est Pauline Desrouledes, championne de France de tennis fauteuil et espoir pour les prochains Jeux paralympiques de 2024. Pauline, qu'on retrouve photographiée dans cette exposition. Une version électronique de l'expo est visible sur le site projet102.fr. Vous allez voir, le catalogue est dense. Maintenant, reportage ici à la clinique Rennes-Beaulieu au moment du vernissage. L'occasion de découvrir le simulateur de conduite dont dispose le centre de rééducation et puis de rencontrer les équipes qui y travaillent. Pour habiller le reportage, le titre « Car Crash » de Tijuana Panthers.
Aujourd'hui, on est à la clinique Rennes-Beaulieu pour le vernissage de l'expo Projet 102, qui est une exposition d'art engagé, puisque l'art a été utilisé comme canal pour aller sensibiliser à la sécurité routière. Et donc, 102 témoignages de victimes de la route, témoins, familles, soignants, élus, associations, témoignent pour partager leur parcours de vie. Et donc, c'est associé à 102 œuvres d'art. Je suis Vanessa Haddar et je coordonne le projet 102. À l'origine, il y a eu le projet 57, donc 57 victimes de la route en 2016 sur le département de la Guadeloupe. C'est un chiffre extrêmement important pour le département. Et un avocat spécialiste en dommages corporels fait le constat qu'il faut arrêter ce fléau. Donc Maître Charles-Henri Copette avec un collectif de citoyens vont réfléchir et ils vont partir sur le concept d'une œuvre, un témoignage contre l'accidentologie. Donc on aura projet 57 qui donnera aussi lieu à projet 37 à Valence, dans la Drôme. Et au niveau national, on est parti sur un chiffre qui peut parler à tout le monde, c'est 102 enfants décédés sur les routes en 2019. En fait, le projet 102, l'expo projet 102 a été inauguré à Paris, à la Halle des Blancs-Manteaux, avec le soutien de la mairie de Paris, en février 2022, et depuis, elle est itinérante. La clinique Rennes Beaulieu en fait, nous a contactés. Elle a vu l'initiative sur Facebook et a trouvé qu'il y avait, ça faisait écho avec eux, l'accompagnement qu'ils pouvaient faire des victimes et qu'il y avait des synergies. Et donc, on a échangé et exposé du coup, l'expo à la clinique.
C'est une sélection hein, des 102 œuvres qu'on peut découvrir ici.
Ouais, à la clinique Rennes Beaulieu, les 102 œuvres ne sont pas exposées, parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup de place. Mais effectivement, il y a une sélection en fonction des services, kiné, ergo, réadaptation, pour que ça fasse le plus écho possible au quotidien de certaines victimes qui ne sont pas forcément à l'étape où en sont ceux qui ont témoigné.
Qu'est-ce que l'art a à dire sur ce sujet des accidents de la route ?
Je ne pourrais pas dire ce que l'art peut dire sur les accidents de la route. En revanche, l'art est un bon canal pour attirer le regard sur quelque chose qui est parfois difficile à regarder. On a tous pris à un moment, certainement, notre téléphone alors qu'on était en voiture. On a écouté de la musique fort alors qu'on était sur une trottinette. On n'a pas mis son casque alors que c'est recommandé. Et en fait, le fait que notre attention soit attirée par quelque chose de beau, ou en tout cas qui peut nous parler, avec une œuvre artistique, qu'elle soit street art, peinture, sculpture, fait que c'est peut-être plus facile d'aller lire un parcours de vie qu'on n'aurait pas lu si on n'avait pas été attiré.
Est-ce que je peux vous demander, par exemple, de me décrire cette œuvre-là ?
Pedro a réalisé une œuvre donc en métal. Elle symbolise un passage d'enfant. Et en fait, il y a plusieurs voitures qui sont représentées par des araignées. Et les araignées vont et mangent sur le passage des enfants. Donc c'est toute une symbolique. Et il est accompagné du témoignage d'une assistante sociale.
Je travaille en tant qu'assistante sociale depuis 5 ans et je rencontre régulièrement des accidentés de la route et leurs proches. Chacune de ces rencontres est marquée par des sentiments de douleur, d'injustice et d'impuissance. L'impuissance de ne pas pouvoir faire machine arrière afin d'éviter l'accident. Je m'efforce d'accompagner et de soutenir les patients et leurs familles. Nous travaillons ensemble à l'élaboration d'un projet de vie. Je m'assure que tous leurs droits sont ouvert et qu'ils bénéficient d'un soutien psychologique et financier si nécessaire. L'un des principaux enjeux est de les mettre en lien avec les bons professionnels et partenaires au bon moment. Personnellement, je suis effrayée à l'idée de conduire une voiture.
C'est jusqu'au 5 octobre. Après, ça va être exposé à la médiathèque de Béton et dans la ville, jusqu'aux vacances.
Au niveau de l'établissement, on accueille des jeunes à partir de 12 ans. Un tiers de nos patients entre 12 et 18 ans, un tiers entre 18 et 25 ans, et l'autre tiers a plus de 25 ans, avec une moyenne d'âge quand même qui est de 25 ans. Donc on est l'établissement très jeune, même sur la Bretagne, et puis particulièrement sur Rennes. Rennes est une ville très très importante, d'une grosse agglomération. Il y a des accidents quand même assez nombreux, et les jeunes, suite à des conduites, on va dire addictives, ou à des conduites qui dépassent le non-respect des règles, font que, arrivé à un moment, ils se retrouvent chez nous. Je suis Gilles Villac, je suis le directeur de la clinique FSEF de Rennes-Beaulieu. Les missions de l'établissement, on a une mission de rééducation spécialisée pour la traumatologie, ou de la neurologie. Et donc ça, c'est en lien bien évidemment avec l'accident de la route. On a en gros 75% de nos patients qui ont eu des conduites à risque et 25% qui sont entre guillemets les personnes qui étaient en face d'une personne qui conduisait sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis ou autre. Donc on a notre objectif en termes de rééducation, c'est de les réhabituer, les rééduquer pour pouvoir leur permettre de retrouver leur autonomie, aussi bien une autonomie familiale, une autonomie financière, une autonomie professionnelle. Et on a des dispositifs au sein de l'établissement pour certains, du fait de leur handicap, et bien, il va falloir se réorienter, se réinsérer. Et on a un dispositif en partenariat avec l'AGFIP et le FIP.
AGFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et FIP, fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Bien évidemment, avec l'agence régionale de santé qui s'appelle Comet France, pour permettre à ces personnes de se projeter. Et ça, on le fait pendant leur hospitalisation. On essaye de ne pas attendre la fin de la sortie. Dès qu'ils arrivent dans l'établissement, ils vont rentrer dans un dispositif pour pouvoir les accompagner. La moyenne, je dirais, comme je vous disais, c'est 25-26 ans. Et il reste 45 jours en moyenne.
Avec combien de places ici?
Alors, nous sommes une clinique de 136 places. 88 lits concernent la rééducation, la réadaptation, établissement spécialisé. Et on a une activité également pour les adolescents, avec une problématique en termes de nutrition, l'obésité, les troubles des conduites alimentaires, le diabète. Et on a également une activité en termes de psychiatrie post-cure, où là, on va permettre à des jeunes, après un épisode malheureux, aigu, une fois qu'ils sont stabilisés, ils vont venir au sein de l'établissement pour pouvoir se réinsérer au travers des études, puisque dans l'ensemble de la clinique, nous sommes en partenariat avec le lycée Chateaubriand, nous sommes une annexe pédagogique, et on délivre un enseignement de la 6e à la terminale sur site, avec des professeurs, mais également des étudiants. Alors, les accidents de la route ont beaucoup baissé en 2020, ça c'est indéniable, puisque avec le confinement. Mais dès qu'on a eu les sorties de confinement, on a bien vu que on reprenait les mauvaises habitudes et l'accidentologie est repartie. Mais c'est, je dirais, on voit bien que du fait des règles, avec l'abaissement de la vitesse, le permis à points, il y a eu une baisse au niveau de l'accidentologie. Par contre, maintenant, les accidents qui ont lieu, en règle générale, c'est des accidents plus graves, parce qu'ils ne portent pas le casque, ils roulent très vite, ils sont sous l'emprise de l'alcool, de la drogue. Donc ce qui fait que malheureusement, des traumas crâniens, quand ils arrivent ici, malheureusement, on va les prendre en charge. On va essayer de leur permettre une meilleure éducation au travers de l'ensemble de nos corps médicaux, l'ensemble de nos professionnels. Mais effectivement, l'accidentologie maintenant est moins importante, il y a moins d'accidents, mais il y a plus de morts. Et les accidents sont plus lourds.
Donc Philippe Leborne, je suis coordinateur paramédical de la clinique FSEF Rennes-Beaulieu. Alors coordinateur paramédical, c'est-à-dire je supervise l'ensemble des programmes de prise en charge, en soins, en accompagnement de l'ensemble des patients de la clinique, à savoir les trois services, le service de soins de suite et de réadaptation, le service de soins de suite et réadaptation adolescents et le service de psychiatrie, aussi bien auprès des professionnels soignants que des professionnels socio-éducatifs.
Quand on a connu un accident de la route et qu'on arrive ici, c'est quoi les différentes étapes du parcours de soins?
C'est un vrai parcours et ça commence déjà par l'accueil, effectivement. Par l'accueil du patient, l'accueil aussi de ses proches, de sa famille. Et ça commence par l'évaluation de ses besoins en soins, mais aussi en accompagnement psychique. Il faut savoir que des patients accidentés de la route ont vécu un véritable traumatisme et qu'il est important de l'accueillir en considérant l'ensemble de ses besoins. Donc nous avons une organisation qui nous permet de répondre à l'ensemble de ses besoins pour déjà évaluer et étape par étape, en fonction de sa consolidation, en fonction de l'amélioration de son état de santé, travailler à un retour dans la vie ordinaire. Donc là, les situations sont extrêmement variées. Fort heureusement, certains jeunes patients que nous accueillons vont pouvoir retrouver une vie à l'école, au lycée, voire une vie professionnelle, une vie de famille. Malheureusement, certains d'entre eux vont avoir des séquelles plus lourdes. Et il va falloir travailler sur ce qu'on appelle le projet de vie, c'est-à-dire comment on va faire dans la vie pour évoluer dans la société, évoluer dans sa famille, lorsqu'on est par exemple paraplégique ou tétraplégique, il va falloir trouver les ressources, trouver les moyens. Donc on est là justement dans cette phase qui est qui suit la phase de soins primaires, si on veut dire, qui est plutôt la phase de réadaptation, de réhabilitation, d'autonomisation, pour trouver toutes les ressources pour pouvoir quand même agir en société avec un handicap.
Est-ce que l'accompagnement psychique, il est d'autant plus important quand la personne était conducteur dans l'accident de la route en question ?
Alors, la notion de la responsabilité, bien sûr, qui intervient lorsqu'on a été victime d'accident de la route, avec en présence de personnes accompagnées dans le véhicule, effectivement, il y a toute une charge psychique de la notion de responsabilité, voire de culpabilité. Dans tous les cas, les situations sont extrêmement difficiles, effectivement, lorsque, malheureusement, il peut y avoir, bien sûr, décès d'un passager ou décès d'une personne dans l'autre véhicule, avec en plus une problématique qui survient dans la responsabilité, celle de parfois la réparation, c'est-à-dire que les victimes d'accidentés de la route qui ont eu un préjudice du fait d'un tiers sont effectivement légitimement en droit de demander réparation. Et là, c'est un autre parcours qui s'engage, très, très compliqué, qui est celui de la procédure en justice, effectivement, pour obtenir réparation. Un jeune patient de 20 ans, polytraumatisé, avec un traumatisme crânien, par exemple, qui va avoir des séquelles cognitives extrêmement importantes, eh bien, son parcours de vie, il est complètement bouleversé, les impacts sont majeurs sur son projet de vie, et ces réparations, lorsqu'il y a un tiers responsable, peuvent se compter en millions d'euros. Donc les enjeux sont extrêmement forts, et c'est pour les patients et les familles, c'est un autre parcours.
Comment vous percevez une initiative comme celle-ci d'amener l'art, ce qui n'est pas facile sur un sujet comme celui-ci, des accidentés de la route, l'art qui fait peut-être partie de ce qu'on appelle les soins supports ici à la clinique Beaulieu, qui peut être une forme de thérapie aussi?
Tout à fait. Enfin, l'utilisation du média de l'art, la production artistique, qu'elle soit plastique, musicale, théâtrale, la danse, ce sont des supports que l'on est amené à utiliser justement à l'occasion de programmes de soins. Et ce sont des supports qui, quelque part, permettent de faire un pas de côté, j'ai envie de dire, par rapport aux soins traditionnels. Et ce sont de vrais leviers, effectivement, de mobilisation, de motivation des patients pour les accompagner dans le soin. C'est vraiment un outil extrêmement intéressant qui demande vraiment, là aussi, de l'expertise. Ça ne s'invente pas. Faire de l'art-thérapie, ça ne s'invente pas. Ça relève de professionnels formés. Alors, cette exposition, effectivement, qui est portée par l'association Vicart, elle est intéressante parce qu'elle permet de se faire rencontrer l'art et le témoignage aussi des victimes et aussi des personnes qui travaillent à l'occasion d'accidents de la route, des professionnels de santé, médico-sociaux, sociaux et voire des avocats. C'est intéressant, justement.
Oula, oula, oula. Mais tu veux... sur la boule, en fait, pour tourner l'aliment. Et par contre, vous me dites si jamais ça peut donner un peu la nausée, quand même.
C'est quoi cette installation ?
C'est un simulateur de conduite. Donc, je suis Marion Lenné, ergothérapeute à la clinique FSEF de Beaulieu.
Être ergothérapeute, ça veut dire quoi ?
C'est un métier de la rééducation ici qui vise l'autonomie dans la vie quotidienne des personnes. Donc, retravailler tout sur les habitudes de vie, les activités qui ont de l'importance pour les personnes et essayer de trouver des moyens de les retrouver, quoi. Un simulateur de conduite, ça permet justement de se réapproprier toute la conduite automobile, de se réentraîner, de voir s'il y a besoin de compensation, d'évaluer pour nous les situations qui peuvent être à risque au niveau attentionnel. Alors on en avait un depuis plusieurs années, il est arrivé en juillet. On a un nouveau modèle.
Et il est utilisé quotidiennement ?
Oui, on s'en sert beaucoup, ouais. Là, il y a une phase d'ajustement, mais pour nous, c'est vraiment un bel outil qui permet de travailler déjà sans le risque de la route et puis de tester des adaptations, enfin des choses vraiment qu'on ne pourrait pas faire autrement. Les adaptations possibles, c'est quand, par exemple, on ne peut plus conduire avec ses jambes, et ben, la conduite est quand même possible. On va pouvoir mettre un frein et un accélérateur sur le volant. Mettre une boule au volant aussi pour contrôler le volant et ça permet justement d'adapter la conduite. Ou à l'inverse, si on a tout un côté qui ne fonctionne plus, que ce soit les jambes ou les bras, de pouvoir adapter avec des aides techniques, mais il faut réussir à se les approprier.
Et ça représente combien de personnes à peu près qui ont un besoin de cette, ce simulateur-là ici? Enfin, c'est un public nombreux
ou... Oui, c'est un public nombreux parce que c'est aussi un passage obligatoire, entre guillemets, suite à une lésion cérébrale. Même s'il n'y a pas de séquelles, les personnes vont devoir régulariser leur permis de conduire auprès d'un médecin agréé. Et nous, pour éclairer le médecin agréé qui voit les patients seulement dans un cabinet, on propose une évaluation en situation sur simulateur et en situation réelle pour que ce soit plus, plus concret et au proche de la réalité.
C'est la mer noire qui s'est planquée sous les jupons de la statue de la liberté. À l'Italo-Dessa, à l'Italo-Dessa. C'est des vieilles ballerines du Bolshoï en goguette, searching for a boy. À l'Italo-Dessa, à l'Italo-Dessa. Soldats de Sibérie et d'anciens soldats qui s'ennuient à l'Italo-Dessa, à l'Italo-Dessa. C'est un crachat de la Volga dans les yeux bleus d'une babouchka à l'Italo-Dessa, à l'Italo-Dessa. Quand le ciel s'oxyde, passe des Anastasia, visons, chapka, poupées acides, promènent leur fourrure mafiosa. Des oligarques en jogging rêvent tout bas de coups d'état. Et moi, je guette le Gagarine qui te conduira jusqu'à moi.
Babix, de son vrai nom David Babin, avec le titre Little Odessa, un titre qu'on retrouve sur l'album Crystal Ballroom qui est sorti en 2009, un morceau qui a quelques notes prémonitoires, non ? Allez, on termine comme chaque jour cette émission d'Info Local avec une recommandation. C'est le Forum du Bénévolat édition 2022 organisé par France Bénévolat jeudi 29 septembre à la Halle Marteneau à Rennes, un lieu qui sera ouvert de 10h à 18h pour rencontrer 114 associations qui proposent des missions dans tous les domaines d'activité, des missions régulières, ponctuelles, voire d'urgence sur le terrain ou au bureau. Pour plus d'infos, un site il-e-vilaine.francebénévolat.org. On précise que l'entrée est libre. Lors de la dernière édition en 2021, 1300 candidats au bénévolat étaient venus rencontrer plus de 110 associations. Extrait de l'interview avec René Mélou en amont de l'édition 2021. René, qui est le président de France Bénévolat à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine, qui œuvre depuis 30 ans pour faire le lien entre associations et bénévoles.
L'idée, c'est de voir, notamment, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les primo-bénévoles, ceux qui le font pour la première fois, qui imaginez un peu quelqu'un qui ne connaît pas le monde du bénévolat, qui arrive à Rennes, ou même s'il est depuis un moment, commence à s'y intéresser, 5600 associations, comment je fais? Donc c'est pas possible, déjà. Donc le premier rôle de France Bénévolat, c'est ça, c'est en fonction des besoins des associations, de la rencontre avec les candidats au bénévolat, ou par le biais de notre plateforme francebénévolat.org, c'est effectivement de détecter quelles sont les envies, les disponibilités, vraiment avec un échange vraiment approfondi. Et à partir de ce moment-là, nous allons, entre guillemets, filtrer pour arriver vraiment à proposer aux candidats au bénévolat des missions qui correspondent à leurs envies. En règle générale, sauf cas particulier, les associations ne repartent pas avec 5 nouveaux bénévoles, 15 nouveaux bénévoles. Simplement, ils vont détecter les personnes qui sont vraiment très très intéressées, motivées, intéressées, et des rendez-vous pour pouvoir se rencontrer autrement que sur un forum où il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup de passages. Voilà.
C'est terminé, une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.